Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'évangile de Matthieu. Je me réjouis de pouvoir traiter aujourd'hui le 14e chapitre qui est on ne peut plus colorié. Il commence avec du noir, la mort de Jean-Baptiste. Il continue avec du violet, la tristesse du Christ. Puis tourne au vert, c'est sa compassion. Puis les miracles, en rouge bordeaux. Pour culminer dans le bleu, le grand bleu, lorsque Jésus marche sur les eaux à la rencontre de ses amis. Voilà en tout cas comment moi je peindrais le tableau de ce 14e chapitre. En effet, il commence avec une histoire plus que sordide. Matthieu n'en reprend que les traits principaux. Je vais essayer de la résumer en entier. Hérode, le tétrarque, régnait en Galilée et Pérée. Il était un des fils d'Hérode Ier, dit le Grand, qui avait fait tuer tous les petits-enfants dans la région de Bethléem. Vous vous souvenez, c'était juste après la naissance de Jésus. Hérode Junior s'était pris comme femme Hérodias, qui était la femme de son demi-frère Philippe. Hérodias avait une fille Salomé qui se mariera plus tard avec un de ses oncles. Si vous trouvez ça déjà assez glauque, attendez, ça va s'aggravant. Parce que notre cher Jean, le Baptiste, avait eu le courage de confronter Hérode à ses fautes et lui dit qu'il n'était pas en droit de se prendre Hérodias comme femme. Sur ce, il fut arrêté et jeté en prison. Alors, lors d'une fête d'anniversaire d'Hérode, la jeune Salomé dansa parmi les convives, sans doute déjà bien alcoolisée. On s'imagine la scène. Elle plut au mari de sa femme qui lui promit devant tout le monde de lui accorder tout ce qu'elle voudrait. La jeune fille prit conseil chez sa mère qui lui dit de demander qu'on lui apportât sur un plat la tête de Jean-Baptiste. C'est sur ce fond de toile incestueux que Jean, le plus grand prophète de l'ancienne alliance, fut décapité. Selon Arnold Furtenbaum, son ministère actif aurait duré entre 12 et 14 mois seulement. Ensuite, il passa un peu moins de 2 ans en prison. Il avait environ 32 ans lorsqu'il fut décapité. Une mort bête, vulgaire, sans pathos, et pourtant un véritable homme de Dieu, un grand martyr, dont la mémoire, entre autres grâce aux évangiles, ne s'estompera pas. C'est donc avec quelques coups de pinceau sur cette histoire que commence Matthieu ce 14e chapitre. L'évangéliste va la mettre en contraste avec l'œuvre rédemptrice lumineuse de Jésus-Christ. Après la mort de Jean-Baptiste, les disciples vinrent prendre le corps, l'ensevelir et l'annoncèrent à Jésus. Et voici ce que nous lisons dans les versets 13 et 14. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit tous les malades. D'un côté, nous voyons la tristesse du Christ et son besoin d'être seul. Il était parfaitement homme, comme il était parfaitement Dieu. Sa tristesse ne fut pas moins douloureuse qu'elle ne l'aurait été pour nous. Mais la foule avait ses propres besoins et Jésus n'y était pas insensible, même s'il le suivait uniquement à cause des miracles qu'il faisait. Malgré cette motivation plus matérielle que spirituelle, Jésus savait s'effacer et tenir son prochain en plus haute estime que lui-même, tout comme il nous l'avait dit. En termes de couleur, passons au ton vif. Jésus resta avec la foule et guérit les malades. Ce qui se passa ensuite se trouve dans les versets 15 à 21 que je vais vous lire maintenant. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit s'asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. En quelque sorte, Jésus avait fait là une démonstration de la sollicitude de Dieu. Les disciples eurent le privilège de faire l'expérience de la bienveillance de Dieu qui ne laisse tomber personne. Notre Dieu est un Dieu créateur. Jésus aurait très bien pu donner à manger à une grande foule sans avoir à multiplier ni pain ni poisson, ni quoi que ce soit. Mais il demande aux disciples de lui apporter ce qu'ils ont. Que veut-il nous dire par là? Nous devrions savoir avec certitude que Jésus se soucie de nous. Aucune situation n'est trop difficile pour lui, il est toujours là. Mais cela ne nous dispense pas de la responsabilité envers nous-mêmes et de nos prochains. Nous sommes nous-mêmes entièrement responsables. Ainsi l'est Dieu. Il n'y a pas de répartition des tâches dans le sens de « aide-toi et le ciel t'aidera ». Ce n'est pas que Dieu n'intervienne qu'après que nous ayons tout essayé, et inversement, nous ne devons pas intervenir lorsque Dieu n'agit pas comme nous l'attendons, ou quand nous l'attendons. Nous avons le privilège de pouvoir travailler main dans la main avec Dieu. Je trouve ça absolument génial. Une fois Jésus, les disciples et les foules rassasiés, voici ce qui se passa. Je vous lis les versets 22 à 32. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battu par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples vinrent, le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux !» Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. J'aimerais juste relever quelques détails qui me semblent primordiaux. Souvenons-nous, Jésus avait ressenti le besoin d'être seul avec Dieu après avoir appris la mort de son ami et cousin Jean-Baptiste, mais la foule l'en avait empêché. Donc ici, il va enfin pouvoir se retirer un certain temps, tout seul, pour prier. Les disciples sont dans la barque pour traverser la mer. C'est Jésus qui les y a obligés. Malgré le fait qu'ils aient fait preuve d'obéissance, une grosse tempête se lève et les met en danger. Ils pensent être sans Jésus, mais il est là. Ce ne sont pas le vent ni les vagues qui vont l'empêcher de sauver ses amis. « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, » leur dit-il. Là encore, le même message que lorsqu'il rassasiait la foule. Les disciples font ce qu'ils peuvent pour ne pas couler, et Jésus fait lui aussi ce qu'il peut, c'est-à-dire tout, pour nous sauver. Dernier détail que j'aimerais relever, quand est-ce que Pierre commence à sombrer? Le verset 30 nous le dit. Je cite, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. » Est-ce que ce n'est pas ce qui nous arrive très souvent? Nous regardons ce qui a l'air dangereux, ce qui pourrait mal se passer, chaque danger potentiel ou réel, et là nous coulons. Que faire? Je crois qu'il n'y a qu'une véritable solution, c'est crier comme Pierre, « Seigneur, sauve-moi !» Jésus n'hésite pas, lui tend la main et le saisit. Le verset 33 nous dit « Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Voilà. Vous ai-je trop promis en vous disant que ce chapitre ressemble à un tableau coloré? D'un côté, la corruption et vulgarité des humains, et de l'autre côté, la grâce et toute puissance du Christ. Que pouvons-nous faire de plus que nous joindre aux disciples et louer Jésus? Je vous quitte pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi et dans une semaine, j'espère. Que le Seigneur vous bénisse.